Émile Souvestre, au bord du lac, deuxième récit, le cerf. C'était une pauvre cabane recouverte d'un chaume mousseux, à fenêtre sans vitrage et dont les murailles crevassées laissaient pénétrer du dehors la pluie et le vent. Au fond, quelques chèvres, couchées sur une litière qui n'avait point été renouvelée, broutaient nonchalamment, tandis qu'une vache maigre tirait avec effort de son râtelier les restes d'un foin coriace et mêlé de joncs. Tout l'ameublement de la cabane consistait en quelques escarbelles, en une table grossièrement équarrie et en une claie dressée sur quatre pieux de bois et garnie de paille fraîche. C'était là le seul lit de l'habitation. Un homme en cheveux blancs y était couché, les yeux fermés, mais il était aisé de voir, à sa respiration entrecoupée et au léger tremblement de ses lèvres, que la maladie les retenait plutôt que le sommeil. Un jeune garçon d'environ 16 ans, assis près de là au foyer, s'occupait à entretenir le feu sous une bassine de fer. Il venait de la découvrir et semblait savourer l'odeur succulente qui s'en exhalait, lorsqu'une jeune fille de son âge entra, portant un morceau de beurre enveloppé dans un lambeau de toile rousse. « Bonjour Jean, » dit-elle tout bas, et en tournant les regards vers le lit, comme si elle eût craint d'éveiller le malade. Jean se détourna vivement à cette voix connue. Un éclair de joie traversa l'expression habituellement mécontente de son visage. « Bonjour Cathy, » reprit-il d'un ton doux et caressant, en faisant un pas vers la jeune fille. « Comment va le père ? » demanda-t-elle. Jean secoua la tête. « Ouh, toujours bien faible. Cette maladie a été une rude secousse, et il faudra bien des soins pour qu'il retrouve la santé. » « Bien voici pour lui, Jean, » reprit Catherine en déployant le lambeau de toile qui enveloppait le beurre. Jean sourit. « Oh, merci, bonne Cathy, merci, » dit-il. « Ce sera aujourd'hui jour de régal, car j'ai déjà là de quoi lui rendre des forces. »« Qu'est-ce donc, Jean ? Voyez ?» Il découvrit la marmite suspendue sur le feu. La jeune fille avança la tête et, soufflant la vapeur qui s'en échappait, afin de mieux voir, « Oh, une poule au gruau !» s'écria-t-elle toute surprise. « Oui, c'est le collecteur qui me l'a donné, » reprit Jean, « pour lui avoir enseigné à rédiger ses comptes en latin. »« Ah, la bonne heure !» dit Catherine en riant. « À force de prendre à ceux qui entrent à la ville une poignée de farine, une poignée de sel, ou une poignée de pruneau. Maître Jacques est devenu le plus riche bourgeois du pays et peut payer les leçons qu'on lui donne aussi cher qu'un seigneur, mais le père sait-il ce qu'on lui prépare ? Ben, il dormait quand je suis revenu. Alors disposons tout avant son réveil. J'ai là encore des noix et des cerises, ce sera pour son dessert. » En parlant ainsi, Catherine vidait sur la table son panier d'osier. Jean ouvrit une armoire d'où il tira des écuelles, des plats, des cuillères, des gobelets de bois, et tous deux se mirent à dresser le couvert. L'affection singulière qui semblait unir ces deux enfants était d'autant plus remarquable que jamais peut-être la nature n'établit entre deux êtres de plus frappantes oppositions. Catherine était grande et bien faite, tous ses traits avaient une douceur élégante, tous ses mouvements une souplesse gracieuse. Rien qu'à la voir, on se sentait lui vouloir du bien, et le sourire bienveillant qui entr'ouvrait toujours ses lèvres vous obligeait à répondre par un sourire pareil. Jean, au contraire, avait la taille courte, épaisse et gauche. Ses traits moroses étaient affadis plutôt qu'adoucis par la chevelure héréditaire qui avait fait donner à l'un de ses ancêtres le nom de Le Rouge. Né fils de cerf et sans cesse froissé, depuis qu'il avait pu sentir, dans sa volonté, dans ses sentiments. Tout son être avait je ne sais quelle expression de contrainte, de malheur et de révolte qui lui donnait quelque chose de repoussant. Ce n'était qu'avec son père et sa cousine Catherine qu'il se montrait soumis. Oh, pour eux, rien ne lui coûtait. Le louveteau devenait un agneau. Sa laideur prenait même alors une sorte de grâce. Tout du reste se résumait pour Jean dans ses deux amours. Son père était toute sa famille et Catherine tout son avenir, car il devait l'épouser un jour. La mère de la jeune fille l'avait promise, et il ne restait plus à obtenir que le consentement du Seigneur, qui n'avait point l'habitude de refuser de telles demandes. Cependant, les deux enfants avaient achevé de mettre le couvert, la poule au gruau était prête. Le convalescent fit enfin un mouvement. Catherine poussa une exclamation de joie. « Oh, c'est toi, petite !» dit le vieillard en se soulevant avec effort sur son coude. « Tu gardes donc pas aujourd'hui les vaches de mon seigneur ?»« Bien, le roi chassait dans la forêt, et les troupeaux ne sont point sortis de peur des meutes, » répondit la jeune paysanne. « Le roi !» répéta le vieux cerf. « Es-tu pas allé pour le voir au passage, Jean ?»« Ben, vous aviez bien besoin de moi, mon père, ici, » répondit-il. « Oh, il n'a pas perdu son temps, » continua Catherine. « Voyez plutôt. » Le vieux Thomas, le rouge, se détourna. « Quoi ? La table est servie ? » s'écria-t-il étonné. « Vous avez un hochepot, » continua la jeune fille. « Et du beurre, » dit Jean. « Et des cerises, » ajouta le vieillard qui s'était dressé sur son séant. « Allons, père, c'est votre repas de convalescence, » reprit Catherine en battant joyeusement des mains. « Venez vous asseoir là avec Jean, et je vous servirai. » Elle courut au foyer et prit la marmite dont elle vida le contenu dans un plat de bois qu'elle plaça tout fumant sur la table. Thomas avait rejeté les peaux de chèvre qui lui servaient de couverture. Il était demeuré assis sur son lit, suivant tous ses préparatifs, avec le regard et le sourire affamé des convalescents. Il allait enfin se lever pour s'approcher de la table, quand un grand bruit se fit entendre au dehors. Jean courut à la porte, mais elle s'ouvrit brusquement avant qu'il eût pu la barrer et donna passage à une demi-douzaine de valets de meute portant les armes du roi brodées sur la poitrine. Tous étaient entrés bruyamment en demandant la maison du forestier, mais à la vue de la table servie et du hochepot dont l'odorante vapeur parfumait la chaumière, ils poussèrent une exclamation de satisfaction. « Pauvre Dieu !» s'écria le plus vieux en roulant autour de son corps le fouet qu'il avait à la main. « Oh, non, plus besoin de la maison du forestier. Voici de quoi amuser notre faim jusqu'au soir. »« Sur mon âme, c'est un chapon au gruau !» ajouta un grand noireau à l'air affamé, dont les narines, caressées par le fumet du hochepot, semblait se dilater avec délices. « Oh, je me réserve l'aile droite !»«
Moi, l'aile gauche !»
s'écria vivement un blondin qui s'était déjà emparé du meilleur escabeau. « Moi, les cuisses !» repartit le vieux.
« Moi, la carcasse !» ajouta un quatrième.
Oh, « Doucement, mes maîtres !» interrompit Jean, dont la figure avait déjà repris son expression dure et hargneuse. « Nous sommes trois ici qui voulons également notre part. »«
Bon, nous n'en avons pas trop pour nous-mêmes, » fit observer le grand brun qui avait déjà tiré son couteau.
« Possible, » reprit le jeune garçon, « mais il est d'usage que ceux pour qui a été cuit le repas mangent les premiers. »«
Tu oublies que nous sommes de la suite du roi, » reprit le vieux valet, « et qu'à ce titre nous pouvons te tirer l'écuelle de la main ou le gobelet des lèvres et... forcé à descendre du lit où tu vas t'endormir. Oh, se peut-il ? S'écria Jean. Hélas, oui, murmura Thomas avec un soupir. C'est le droit de prise, comme il l'appelle.
Et vous ne pourrez même pas partager ce repas que je vous avais destiné, mon père ? Reprit le jeune garçon.
À moins que le vieux ait un privilège qui l'autorise à se réserver sa portion, répliqua le blondin.
Oh, je n'ai de privilège que pour ce qu'il vous plaira de me laisser, dit Thomas, avec cette humble soumission des malades et des vieillards.
De laisser, s'écria le valet qui avait déjà parlé. Vive Dieu, il faudrait pour cela une plus forte pitance. Ne vois-tu pas que nous en aurons à peine pour nos dents de devant ?
Mon père sort d'une dangereuse maladie, objecta Jean avec impatience.
Moins dangereuse que la faim, je suppose.
Faites-lui place au moins au bout de la table.
Elle est trop petite, reprit brutalement le grand brun.
Puis, ajouta le blondin, cette poule doit avoir un coq dont ils pourront faire un second chapeau.
Jean ferma les poings et ses yeux s'allumèrent, mais Catherine lui posa la main sur l'épaule.
Les gens du roi sont les maîtres partout, dit-elle à demi-voix. Ne l'oubliez point.
Jean baissa la tête avec un soupir étouffé. Quant à Thomas le Rouge, il avait accepté ce désappointement avec la patience silencieuse d'un homme qui en a l'habitude. Cependant, il était aisé de voir que la privation du repas délicat sur lequel il avait un instant compté lui était singulièrement douloureuse. Ses regards suivaient tous les mouvements des valets de meute avec une expression de chagrin, de peur et de convoitise. Ses lèvres s'entr'ouvraient instinctivement et s'agitaient comme s'il eût partagé leur repas. Deux fois même, il se baissa à la dérobée pour ramasser les os à demi rongés qu'il jetait à terre. Jean, qui s'en aperçut, sentit des larmes gonfler ses paupières et sortit brusquement. Il ne rentra qu'une heure après, chargé d'une bourrée qu'il jeta dans un coin. Les valets de meute étaient partis et Catherine avait tout remis en place. Elle se préparait même à prendre congé de Thomas, car la nuit allait venir. Jean proposa de la reconduire jusqu'au petit bois. Elle accepta, mais comme tous deux allaient sortir, une nouvelle troupe se présenta à la porte de la cabane. Cette fois, c'était les gens de Raoul de Maillé qui venaient exécuter les ordres de Monseigneur. Maître Moreau, l'intendant, était à leur tête, tenant le bâton noir à pomme d'argent. « Où est Thomas le Rouge ? » demanda-t-il au jeune garçon qui s'était découvert à sa vue.
« Ici, répondit Jean. « Et pourquoi a-t-il manqué à toutes les corvées de ce mois ?»«
Parce que la fièvre le retenait au lit. »«
Bon, je sais, reprit l'intendant, mais tu devais le remplacer. Je t'en avais donné l'ordre. »«
Et moi, je vous avais répondu que la chose était impossible, répliqua Jean.
« Pourquoi cela ?»
Parce que mon père avait besoin de mes soins. » L'intendant devint rouge de colère.
« Fort bien, dit-il. Ah, si tu es resté, pour n'en avoir point les mentis, ah, ben, tu as voulu prouver que l'on pouvait se moquer des ordres de maître Moreau ?»«
Oh, nullement, interrompit Jean.
« Bon, bon, continua l'intendant en frappant la terre de sa canne. Nous verrons qui aura le dernier mot. Ah, tu pourrais t'en résister à l'autorité de monseigneur. »
« Je n'y pense point, dit le jeune garçon.
Oh, tu refuses d'obéir à ce que j'exige. »«
Mais songez, maître. »«
Rien, je ne veux rien écouter. »«
Oh, le forestier avait raison de te regarder comme un vaurien impossible à conduire. »«
Il ne faut pas que les intérêts de monseigneur souffrent de l'entêtement de ses serfs. Tu paieras l'amende pour toutes les corvées auxquelles tu as manqué. »
Jean haussa les épaules.
« Heureusement que tous les sergents du pays ne trouveraient point chez nous un rouge de denier, » dit-il amèrement. « Eh bien, je serai donc plus habile que les sergents. car j'en trouverai, moi !» s'écria l'intendant.
« Oh, fouillez l'escarcelle, maître Moreau, » dit le jeune homme, en en trouvant une poche de cuir suspendue à sa ceinture.
« Non, non, » dit l'intendant, « mais je fouillerai dans la maison, drôle !»«
Vous n'y trouverez que la maladie et la misère. »
« Bon, j'y trouverai aussi une vache maigre, » dit l'intendant, en faisant signe à l'un de ses estafiers de détacher la bête du râtelier.
Jean tressaillit.
« Oh, que faites-vous » s'écria-t-il.
« Je fouille ton escarcelle, comme tu m'as dit de le faire, » répondit Moreau ironiquement.
« Oh, nom de Dieu, vous ne voudriez pas amener la vache, » dit Jean.
« Pourquoi donc ?»«
Mais songez, maître, que les routiers ont coupé notre seigle en herbe, » que les loups ont mangé nos chèvres, que cette vache est notre dernier bien. Si vous nous l'enlevez, mon père et moi, nous restons sans ressources.
Fuis donc, dit l'intendant, un savant comme toi ne peut manquer de faire fortune. N'as-tu pas dit l'autre jour au collecteur que je faisais mes comptes en latin barbare?
J'en ai fait, répliqua Jean. Ne peut-on dire ce qui est vrai?
« Soit, reprit l'intendant, mais n'ajouterai pas moins à la liste des confiscations. Item vacat massii cognomine rubri. » Et se tournant vers les valets, « Emmenez la bête, » ajouta-t-il brusquement.
Ceux-ci voulurent obéir, mais Jean la retint par une des cornes.
« Cela ne peut être, maître Moreau, » dit-il d'une voix que la colère et l'émotion rendaient tremblantes. Les corvées auxquelles mon père et moi avons manqué n'équivalaient point au prix de cette vache. Moi, je veux parler à mon seigneur, il saura comment vous venger sur les pauvres gens de vos barbarismes.
Du barbarisme ! S'écria Moreau exaspéré.
Bon, oui, j'ai pour preuve vos dernières quittances, reprit Jean avec une ironie irritée.
Piment ! S'écria l'intendant, dont les prétentions au langage cicéronien étaient précisément le côté faible.
Faut-il les montrer à l'aumônier ? Mentoris in pudenter !
Ah, vous voulez dire mentiris, maître ?
L'intendant rougit et les valets se regardèrent en souriant.
La peste soit du manant qui se mêle de m'origéner ses anciens ! S'écria Moreau.
L'ancien curé avait bien raison de lui mettre en main les auteurs. Un certes devrait savoir que retourner la terre et tirer la charrue. Mais voilà, les emmenez la vache, vous autres.
Mais il faudra que monseigneur l'ordonne, interrompit Jean, la retenant toujours.
Mais lâchera-tu cette corde, misérable?
Oui, quand vous aurez lâché la corde. L'intendant leva son bâton noir, qui s'abattit sur la tête chevelue du jeune garçon. Mais Jean ne laissa point à Moreau le temps de frapper une seconde fois. S'élançant vers lui, il le saisit à la gorge avec une sorte de rugissement et le terrassa sous ses deux genoux. Heureusement que les valets s'interposèrent. On écarta avec peine Jean hors de lui et l'intendant fut relevé. Sa chute l'avait tellement étourdi qu'il fut quelque temps comme un homme ivre qui se réveille. Mais à peine put-il se reconnaître que toute sa fureur lui revint.
« Arrêtez l'assassin ! » s'écria-t-il en montrant Jean. Il a outragé un officier de monseigneur. Il faut qu'il soit jugé. Jugé et pendu. Vous m'en répondez tous.
Les valets saisirent le jeune paysan qui voulut en vain se débattre. On lui lia les mains derrière le dos et un manche de fouet fut mis dans la bouche en guise de bâillon.
Conduisez-le à la maison, reprit maître Moreau. Monseigneur arrivera demain et décidera ce qu'on doit en faire. « Ah, tu résistes à l'intendant du château, misérable. Tu crois savoir mieux que lui le latin. Tu oses lever la main sur ton maître. Eh bien, bien, nous verrons ce qui t'en arrivera. »
Et repoussant le vieux Thomas et Catherine, qui le suivaient en suppliant.
« La paix, vous autres, » ajouta-t-il. « La paix, vous dis-je. Il n'y a point de raison. Il n'y a pas de pardon pour de tels crimes. La harte pour le mécréant. Et... puisse-t-il aller au grand diable d'enfer ?
Le même droit de conquête qui, dans l'Antiquité, partagea les sociétés en hommes libres et en esclaves, avait donné naissance, dans le Moyen-Âge,
au seigneur et au serf. Celui-ci n'était donc à proprement parler qu'un esclave dont on avait allongé la chaîne. Attaché à la glèbe, c'est-à-dire à la terre qu'il cultivait, il devait à son maître la meilleure part de son temps et de ses bénéfices. Il le suivait à la guerre, il était obligé, en cas de captivité, de payer sa rançon. Mais en revanche, son pécule lui appartenait. Il vivait chez lui, labourait pour son compte, et ne recevait point l'ordre immédiat du seigneur. C'était un débiteur, non un valet. Beaucoup de serfs, enrichis par leur travail, avaient fini par se racheter, et de là était venue la bourgeoisie. Cette dernière, vassale du roi ou d'un autre seigneur, c'est-à-dire soumise à certains hommages et à certaines redevances, tendait à s'émanciper chaque jour et formait déjà ce tiers état ou troisième état qui devait un jour primer les deux autres. Au XVe siècle, où se passe notre histoire, la puissance des communes ou réunions de bourgeois commençait déjà à devenir redoutable et toute l'ambition du serf était d'en faire partie. Le clergé, qui avait favorisé les premiers affranchissements, continuait à travailler à la destruction du servage, en prenant le parti du faible contre le fort, et proclamant l'égalité des hommes devant Dieu. Mais la noblesse de son côté, qui sentait que la domination lui échappait, était devenue plus jalouse de ses droits et employait tour à tour pour les maintenir l'extrême indulgence ou l'excessive sévérité. Bien que le système féodal fût menacé, il était donc encore entier, et d'autant plus visible qu'il se trouvait en face d'un nouvel ordre de choses. Ainsi, pour nous résumer, la nation comprenait alors quatre classes distinctes, les nobles, les religieux, les bourgeois et les serfs. Et au-dessus de tout était la puissance royale qui grandissait chaque jour au détriment des seigneurs. Cependant, ces derniers avaient conservé leurs droits les plus importants, tels que ceux de se faire réciproquement la guerre, d'établir l'impôt sur leurs terres et de rendre la justice. Ce dernier privilège, ou le plus redoutable de tous, leur donnait par le fait droit de vie et de mort sur leurs gens, car leurs arrêts sans contrôle n'étaient le plus souvent que l'expression de leur colère ou de leur clémence. La passion jugeait, faisait elle-même exécuter ses sentences. On comprend, d'après un tel état de choses, quelle dut être l'inquiétude de Catherine et de Thomas le Rouge lorsqu'ils virent emmener Jean. Messire Raoul était connu pour un homme emporté, qui condamnait sans rien entendre et revenait rarement sur ses jugements. Or, il était à craindre que Maître Moreau n'en profitât pour perdre Jean, car son astuce égalait sa méchanceté. Catherine courut chez le collecteur pour le supplier d'intercéder en faveur de son cousin. Mais le collecteur refusa de se mêler d'une affaire qui pouvait le compromettre sans profit. Il en fut de même du prévôt, qui craignit de faire renvoyer son cheval mis au vert dans les prairies de Monseigneur par la protection de Maître Moreau et du notaire, qui objecta que l'intendant pouvait lui faire retirer les actes du château. Catherine s'en revenait pour porter ses mauvaises nouvelles à Thomas. Elle suivait la lisière des blés, le cœur gros et les yeux rouges, lorsqu'elle aperçut un moine de Saint-François qui arrivait par un autre sentier, se dirigeant également vers Rillet. C'était un homme déjà vieux, mais dont le visage épanoui respirait je ne sais quelle bonté active. Il portait un bâton, une cape et une corde en bandoulière, à laquelle étaient passées une miche de pain bis et une gourde en forme de micelle. Catherine le salua. « Bonjour, mon enfant, dit le moine. D'où venez-vous donc ainsi à une heure où tout le monde travaille au champ ?»«
Je viens de chez le prévôt, mon père, répondit Catherine d'un accent ému.
« De chez le prévôt, mais auriez-vous quelque démêlé avec la justice ?»«
Oh, non pour moi, mais bien pour mon cousin Jean. »«
Et quelle faute a-t-il donc commise ?»
La jeune fille raconta ce qui était arrivé la veille, et comment Jean avait été conduit aux prisons du château.
Dieu le sauve, dit le père Ambroise. C'était le nom du franciscain.
Oui, j'ai vu passer il y a une heure le comte Raoul avec toute sa suite, et l'on lui dit un orage d'été. Un de ses écuyers a raconté au village qu'il avait été désarçonné 3 fois au tournoi d'Angers et qu'il en avait la rage au cœur.
Oh, que dites-vous là, mon père? S'écria Catherine. L'intendant va profiter de cette humeur noire pour lui parler de Jean, et ils le feront pendre au fond du château.
Bon, il faut espérer en sa miséricorde, dit le moine d'un ton prouvant qu'il n'en attendait rien lui-même.
Oh non, non, reprit l'enfant en joignant les mains et fondant en larmes. Monseigneur Raoul n'a jamais pardonné dans sa colère. Quand le cœur lui poit, il s'en venge sur le premier qui se trouve à la longueur de sa main. Il n'y a plus d'espoir pour Jean, mon pauvre Jean. Et que va devenir le vieux père? Qu'allons-nous devenir tous sans lui? C'était notre force et notre avenir. Oh, mais si vous le connaissiez, mon révérend, courageux comme un sanglier contre qui l'insulte, et bon comme un chien avec ceux qu'il aime. Et pensez que personne n'ose dire la vérité pour le défendre, ni le prévôt, ni le notaire, ni le collecteur. Il n'y a que moi, le vieux père, qui oserions déclarer que le tort est à l'intendant, que c'est lui qui l'a injurié, frappé. Pauvres gens que nous sommes, on ne nous écoutera point, et Jean sera pendu. Oh, pourquoi ne puis-je le sauver avec tout ce que j'ai de sang?
Et en parlant ainsi, l'enfant sanglotait et pressait ses mains jointes sur sa poitrine. Le moine fut attendri.
Conduisez-moi au château de Messire Raoul, dit-il, je parlerai pour le prisonnier.
Catherine jeta un cri de joie. Est-ce vrai, mon père? Demanda-t-elle éperdue.
Mais notre devoir n'est-il point de secourir ce qu'on opprime? Reprit le franciscain.
Et vous oserez parler au comte Raoul?
Le moine sourit. Le comte Raoul n'est qu'un homme, dit-il. Et nous osons tous parler à Dieu. Montrez-moi le chemin, enfant, et surtout hâtez-vous, car la justice des châteaux est expéditive, et nous pourrions arriver trop tard. Cette pensée fit frissonner Catherine. Elle se mit à courir vers le château, suivie du moine qui avait peine à la suivre. Ils ne tardèrent point à l'apercevoir. La jeune fille leva les yeux avec terreur vers les fourches de justice qui surmontait la principale tour, mais elle n'y vit que le squelette des 2 routiers pendus l'année précédente par ordre de Raoul. Son cœur se desserra et elle continua sa route d'un pas moins rapide. Le château de Riez était récemment construit et non de ce qu'enseignait alors l'art de la défense n'avait été négligé par le maître maçon qui en était l'architecte. Il y avait 3 enceintes garnies de tours, de créneaux et de mâchicoulis, entourées chacune d'une douve avec pont-levis. Au milieu de la dernière s'élevait le donjon, encore défendu par un fossé et par une herse toujours levée. C'était là que se renfermaient les archives, les armes, le trésor. Dans la même cour se trouvaient les citernes, les écuries, les caves et le corps de logis habité par le comte. Au-dessous étaient les souterrains, dont l'entrée n'était connue que de lui, et qui, s'étendant jusqu'à la forêt, permettaient à la garnison, en cas de siège, de fuir sans être aperçue. Catherine laissa le père Ambroise à la première entrée, le supplia encore de ne rien négliger pour sauver Jean, et s'assit au bord du parapet en attendant son retour. Le moine fut introduit dans la cour d'honneur où les écuyers et les pages s'exerçaient à l'escrime et à l'équitation. On lui fit ensuite traverser les appartements de Monseigneur Raoul. Le luxe intérieur répondait à l'élégance et à la solidité de l'extérieur. Les parquets étaient formés de pierres de diverses couleurs dont les jointures de plomb et de fer fondus formaient 1000 arabesques brillantes. Les poutres, incrustées d'ornements en étain,
soutenaient de loin en loin des armes ou des animaux étrangers habilement conservés. Les vitres de verre peints représentaient l'histoire des ancêtres du contre-Raoul et la fondation du château. Quant à l'ameublement, il était tout entier en bois de chêne merveilleusement œuvré et aussi noir que l'ébène. Les salles avaient été tendues de tapisseries d'Arras et garnies dans tout leur pourtour de coffres rouges, de grands bancs à hausses traînantes ou de lits larges de 12 pieds. De loin en loin, comme preuve d'opulence, étaient suspendus des miroirs de verre ou de métal, grands d'un pied. Le père Ambroise admira, en traversant la salle des pages, une horloge dont l'aiguille marquait les minutes et les heures. Il fut introduit dans la salle à manger où se trouvait le comte. C'était une longue galerie, soutenue des deux côtés par des piliers de chêne incrustés de cuivre et d'étain. Une table entourée d'une balustrade occupait toute la longueur, et au milieu s'élevait une tour en charpente sur laquelle était posée une torche destinée à éclairer la salle entière. Au fond apparaissait le dressoir, chargé d'aiguières et de hanapes d'argent, et à côté les tables de service. Elles étaient couvertes de bassins de viande, accommodés à la sauge, à la lavande ou au fenouil, de piles de pain de 9 onces parfumées d'anis et de pots de vin tirés au-dessus de la barre. À l'autre bout de la salle, une troupe de musiciens jouait une symphonie dans laquelle se faisait entendre tour à tour la trompette, la flûte, le chalumel, le luth et le rebec. Les convives, au nombre de près d'une centaine, étaient placés selon leur importance. Les premiers avaient devant eux des écuelles de vermeil et quelques-unes de ces fourchettes dont l'usage commençait à s'introduire. Ceux qui venaient après n'avaient que des écuelles d'argent et ceux qui suivaient des écuelles d'étain. Personne ne prit garde en le premier instant au père Ambroise. Le varlet qui avait amené se contenta de lui montrer un escabelle sur lequel il s'assit et de lui faire donner un gobelet, une écuelle. Le franciscain allait commencer à manger lorsque Raoul l'avisa dans un coin. « Hé, par la mort du Christ, nous avons ici une robe de moine !» s'écria-t-il, en remettant sur la table son hanape d'or qu'il venait de vider. « Hola, beau père, venez vous asseoir à ma table, et vous autres, faites place au révérend !» Les convives s'empressèrent de se serrer, et le père Ambroise vint se placer presque vis-à-vis du comte qu'il salua. « Tu viens de me tromper, reprit Raoul. Vous appartenez au franciscain de Tours. » J'en suis le père gardien, répondit le moine. Le comte releva la tête. Alors, fort bien, reprit-il d'une voix moins rude. J'ai toujours aimé votre maison, mon révérend, et je voulais même vous aller voir pour une affaire. N'accordez-vous point à des laïcs la permission de porter pendant un jour chaque mois la robe de votre ordre? « Il est vrai, monseigneur. Et en le revêtant, on a droit aux indulgences qui vous sont accordées à vous-même. Ah, pourvu que l'on revête en même temps notre esprit d'amour et d'humilité, reprit le père Ambroise. Cette robe de moine portée par les hommes du siècle n'a d'autre but que de les rappeler à la piété des cloîtres. Je sais, dit Raoul, mais il faudra que vous m'accordiez cette faveur, père gardien. À cette condition, vous pourrez me demander pour votre couvent tous les avantages qu'il vous plaira. Si j'osais, j'en demanderais tout de suite un pour moi-même, dit le père Ambroise. Lequel donc, mon révérend? Votre intendant a fait emprisonner hier le fils d'un de vos serfs. Oui, en effet, il m'a parlé d'un jeune drôle qui avait refusé d'obéir. J'ai promis de solliciter sa grâce. La grâce de Jean ! S'écria maître Moreau. Oh, n'en faites rien, monseigneur. Vos manants deviennent chaque jour plus difficiles à conduire. Il faut un exemple, vous-même vous l'avez dit. C'est la vérité, reprit le comte, mais je ne savais pas que le père gardien s'intéressât à ce vaurien.
Dieu sera pour nous ce que nous aurons été pour les autres, fit observer Ambroise. Il ne pardonnera qu'à ceux qui auront pardonné. Raoul parut incertain. L'intendant s'aperçut qu'il était ébranlé, et craignant de perdre sa vengeance, Monseigneur n'a pas oublié que ce genre a déjà été mis à l'amende pour avoir voulu frauder le droit de four en conduisant son pain chez lui et pour avoir aiguisé son solde de charrue sans payer la taxe. Oh, diable ! S'interrompit Raoul. Depuis, s'il a rompu un jour les laisses des chiens de Monseigneur, sous prétexte qu'il fourrageait son avoine. Est-ce vrai ? Dit le comte plus animé. Quant au daim qui a été tué sans qu'on ait pu découvrir par qui, eh bien, Monseigneur sait que la cabane du père de Jean est sur la lisière de la forêt. Par le ciel, ce serait un démon de Rougeau, s'écria Raoul. Oh, j'en jurerais. À la potence, alors, reprit le comte. Malheur à qui touche à mes chasses. Et comme le moine voulait parler, « Oh, ne cherchez pas à le défendre, mon père, » continua-t-il avec colère. « Je veux que le drôle apprenne qui est le maître ici, qu'on lui prépare une cravate de chambre et qu'on ne m'en parle plus. » Il s'était levé et tous les convives l'imitèrent. Le père Ambroise courut à lui comme il allait quitter la salle. « Au moins, vous me permettez de voir ce malheureux ?»« Soit, » dit Raoul, « préparez-le à son sort. » Et vous, maître Moreau, venez à ce que tout soit achevé aujourd'hui même. Dieu vous garde, mon révérend, sous peu que je visiterai votre couvent. Il sortit à ces mots, laissant le moine avec un homme d'armes chargé de le conduire près de Jean. L'homme d'armes conduisit le moine à la principale tour de la troisième enceinte. Arrivé dans la salle basse, il noua une corde autour du corps du frère du gardien. Il mit une lanterne en main, puis, soulevant avec effort par son anneau une des larges dalles de granit, il le descendit dans le gouffre humide et obscur au fond duquel Jean avait été jeté. Cette espèce de puits qui descendait jusqu'aux fondations de la tour avait à peine quelques pieds de longueur et ne recevait ni air ni lumière. Le père Ambroise y trouva le jeune garçon accroupi dans un morne désespoir. À la vue du moine, il souleva pourtant la tête. « Oh, mon seigneur est de retour, » dit-il. « Oui, c'est lui qui m'envoie, » répliqua le franciscain. « Oh, pour me préparer à mourir, mon père ?» Ambroise baissa les yeux sans répondre. « Que la volonté de Dieu soit faite, » reprit Jean avec un soupir. « Aussi bien je ne pourrais continuer à vivre dans le servage. Il y a en moi quelque chose qui se soulève contre la persécution et l'injustice. Je suis prêt, mon père, et j'attends vos dernières instructions. Repens-toi de ta faute, mon fils, reprit le moine avec onction. Oh, je le veux, dit Jean, qui s'était mis à genoux. Écoutez-en l'aveu, mon père, et pardonnez-moi au nom de Dieu, comme je pardonne à ceux qui m'ont ôté la vie. Le moine s'assit à terre, et Jean commença sa confession, avouant sa colère, sa haine et ses désirs de vengeance. Dans toutes ses impatiences, cette âme n'avait eu qu'une seule aspiration, l'affranchissement. Le père Ambroise fut touché de l'énergie, à la fois naïve et grave, de cet enfant, qui avait sans cesse préféré la lutte et la souffrance à l'acceptation silencieuse de sa servitude. Lorsque sa confession fut achevée, il lui adressa quelques conseils, lui donna les consolations que pouvait permettre un pareil moment, et finit par prononcer l'absolution de ses fautes. Juan écouta tout avec un recueillement attendri, puis, revenant aux objets de son affection, « Quand vous me quitterez, mon révérend, dit-il, « retournez, je vous en conjure, vers mon père et vers Catherine. Préparez-les au coup qui va les frapper. Ne leur dites surtout pas que je regrette la vie, car je ne le verrai point, mais
J'étais accoutumé à mes souffrances. Je les oubliais par instants quand je voyais Catherine et mon père heureux. Hélas, qui veillera sur eux désormais? Ah, Dieu devrait prendre en même temps ceux qui s'aiment, mon père. Alors on accepterait de mourir. Il demeura quelques instants, la tête baissée sur sa poitrine, pleurant silencieusement. Le moine prit ses deux mains dans les siennes et prononça d'une voix attendrie quelques paroles de consolation. « vous avez raison, » reprit Jean en maîtrisant son émotion. « Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Peut-être n'y avait-il pour moi aucun autre moyen d'affranchissement. Mors quae liberat habetur libertas. » Le père Ambroise parut surpris. « Vous parlez latin ? » dit-il. « Oh, pour mon malheur, » répondit Jean. Il raconta alors au franciscain comment il s'était attiré la haine de maître Moreau en relevant imprudemment ses barbarismes. Le moine ne put s'empêcher de sourire. « Règle générale, mon enfant, dit-il. Rappelez-vous, qu'outre le péché, il y a deux choses dont il faut se garder soigneusement. Prouver à un homme en place son ignorance et invoquer son droit près d'un supérieur. Hélas, je l'ai reconnu trop tard, dit Jean. Cependant, je soupçonne maître Moreau d'avoir agi par crainte, plus encore que par dépit. Mais comment cela ? Ben, il a pensé que je pourrais dénoncer à monseigneur ses voleries. Ben, que dites-vous là, Jean ? Interrompit le moine. Songez que l'on ne doit point soupçonner légèrement. Au silence, si je pointe au soupçon, mon père, mais aux preuves. Il se pourrait. J'ai vu maître Moreau percevoir les impôts. Si vu de la voiture dans laquelle se trouvaient les planchettes servant à la comptabilité du château, et s'il recevait 3 bottes de chambre, il n'en marquait jamais plus de 2, et s'il prenait 6 poules, il en oubliait au moins une. Mais pour la taxe en argent, oh, je l'ai vu déployer ses rôles en parchemin, qui ont plus de 100 pieds de longueur, car la seigneurie du comte est la plus considérable du pays, et partout, il avait inscrit une somme moindre que la somme reçue. Jean, Jean, prenez garde au jugement téméraire. Oh, on peut facilement vérifier ce que je dis, mon père. Il suffit d'appeler les corvéables avec leurs planchettes et leurs quittances. Ainsi, vous êtes sûr que maître Moreau trompe monseigneur ? Aussi sûr que je le suis de paraître aujourd'hui devant Dieu. « Peut-être, » dit le père Ambroise, à qui les confidences du jeune serf semblaient donner une espérance inattendue. « Je vous quitte, mon fils, mais je vous abandonnerai point. Vous me reverrez, je l'espère. »« Au pied du gibet, mon père ? Oh là ou ailleurs, adieu. Priez et ne désespérez point. Dieu seul peut ce qu'il veut. » À ces mots, le moine tira la corde dont le bout était resté entre les mains de l'homme d'armes, se sentit enlevé. Il eut bientôt rejoint son compagnon, qu'elle lui demanda de le conduire chez l'intendant. Lorsqu'il entra, maître Moreau était en conférence avec le sommelier. Il jeta au moine un regard mécontent et lui demanda, sans se déranger, ce qu'il amenait. « Je voudrais vous entretenir, maître, » répondit le père Ambroise, sans se déconcerter. « Bon, excusez-moi, » répliqua l'intendant, « moi, je suis en affaire. » Oh, il suffira d'un instant. Bon, voyons alors. Ambroise regarda le sommelier. Celui-ci fit un mouvement pour se retirer. Restez, restez, dit Moreau. Il n'y a point, je suppose, de secret. Oh, nullement, reprit le franciscain. C'est un service à rendre à monseigneur. Mais pourquoi alors vous adressez à moi? Parce que la chose est de votre domaine. Qu'est-ce donc ? Ben, il s'agit de la perception des taxes. Ah ! S'écria maître Moreau, qui devint plus attentif. Oui, Jean m'a communiqué des remarques. Oh, laissez-nous, Bidois, interrompit vivement Moreau en congédiant le sommelier. Et quelles sont ces remarques ? Reprit celui-ci, lorsque l'autre fut sorti.
Il prétend, ajouta le moine, que l'on pourrait augmenter d'un tiers les revenus de monseigneur.
En augmentant les impôts?
Non, 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 mais en diminuant les vols. Maître Moreau tressaillit.
Que voulez-vous dire? Balbutia-t-il.
Moi, rien, répliqua le père Ambroise. Mais ce garçon paraît avoir connaissance de l'affaire. Il a, dit-il, des preuves.
Des preuves?
S'écria l'intendant qui devint pâle. Oui, je lui ai promis d'avertir monseigneur qu'il sera sans doute bien aisé de vérifier la vérité, continue le père Ambroise. Moreau fit un geste de terreur. Seulement, reprit le moine, j'ai pensé qu'il était convenable de vous prévenir d'abord, ces affaires étant de votre domaine.
Et je vous remercie, dit l'intendant d'une voix troublée. Je vous remercie, mon révérend, mais ce genre vous trompe, il est impossible qu'il ait des preuves.
Je le sais, mais en tout cas, je vais rapporter à monseigneur.
Oh, c'est inutile, interrompit vivement Moreau. Oh, c'est tout à fait inutile, mon révérend.
Ben, je l'ai promis, oh, Jean ne veut que gagner du temps. Qui sait, il peut avoir à donner quelques bons renseignements, et nul doute que dans ce cas, monseigneur ne lui fit grâce.
Est-ce là ce que vous voulez, mon révérend?
Ben, je m'en charge.
Vous?
Oui, je réfléchis qu'après tout, j'avais été un peu vif dans cette affaire qu'il fallait passer quelque chose à un enfant. Car Jean est presque un enfant. Je comptais parler à monseigneur pour l'apaiser, s'il se pouvait.
Mais veuillez alors le voir tout de suite, reprit le père Ambroise, qui, ne doutant plus des accusations avancées par Jean, sentait l'intendant en sa puissance.
J'attendrai ici votre retour.
C'est cela, dit Moreau en se levant. Je vais tâcher d'obtenir le pardon.
Faites tous vos efforts, maître, car si le comte refuse, il faudra que je lui parle des révélations de Jean comme dernière ressource.
Oh, vous n'en aurez pas besoin, mon père, j'en ai la certitude. Le comte manque d'argent, et moi seul je puis lui en procurer. Alors dans ces moments, j'obtiens tout de lui.
Pas un mot de ce que vous a dit Jean, mon révérend. Je reviens dans un instant, avec sa grâce.
Maître Moreau sortit à ces mots, laissant le père Ambroise émerveillé du changement qui venait de s'espérer en lui.
Il fut absent environ une heure et reparut enfin, le teint animé et le front couvert de sueur.
« Jean est sauvé, dit-il en entrant.
Ça n'a pas été sans peine. Monseigneur s'était fait à l'idée de le voir pendre et n'en voulait plus démordre. Enfin, pourtant, il a cédé. C'est bon. Comme il craint que cette indulgence ne soit de mauvais exemple, il veut que le fils de Thomas quitte le pays.
Et où l'envoie-t-il? Demanda le franciscain.
De ses anciens serfs, récemment affranchis et maintenant bourgeois de Tours, maître Laurent.
Le marchand drapier.
Oui, précisément. Il m'a promis un garçon de comptoir pris parmi ses corvéables, et aucun ne peut convenir mieux que Jean, qui a appris à écrire, et qui chiffre assez bien pour reconnaître les erreurs volontaires d'une comptabilité, continua le père Ambroise.
Oui, vous avez raison, maître, je crois que l'éloignement de Jean sera commode pour tout le monde.
Je ne vois de reste aucune objection à un pareil projet. En servant aujourd'hui maître Laurent, il peut un jour se racheter et devenir marchand comme lui. Je vais lui apprendre cette bonne nouvelle.
Je lui ai déjà fait savoir, répliqua Moreau, et il doit vous attendre maintenant dans la cour d'honneur.
Je vais l'y retrouver, dit le franciscain en reprenant son bâton. Vous remercierez le comte en mon nom, maître Moreau. Mais surtout, croyez-moi, soyez désormais moins dur envers les serfs de monseigneur, et plus exact dans vos calculs.